Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître d'aujourd'hui est tirée de l'épître aux Colossiens, et le passage que la liturgie emprunte est une prière que l'apôtre Saint Paul adresse à Dieu pour cette communauté de Colosses. Notre Mère l'Église nous fait réentendre cette même prière pour que nous en ayons l'intelligence de ces demandes que faisait Saint Paul pour ses chrétiens de Colosse, et que nous-mêmes, nous puissions faire nôtre cette prière et demander les mêmes choses, car nous sommes aussi concernés. Saint Paul était désireux de voir les Colossiens tirer le meilleur parti de la rédemption dont ils avaient été l'objet. C'est la fin de l'épître que nous avons à la messe. C'est lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Aussi, pour cela, saint Paul prie pour ses fidèles de Colosse. Son souhait est qu'ils plaisent entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ par une conduite digne de lui. Mais il est pour cela une condition indispensable que donne saint Paul au début de l'épître, c'est qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Il formule ainsi son désir: « Nous ne cessons de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Cependant, saint Paul ajoute une modalité à cette connaissance de la volonté de Dieu qui est intéressante. Il ajoute ceci: en pleine possession d'une sagesse et d'un savoir d'origine spirituelle. La raison de cet ajout, de cette demande, de cette possession d'une sagesse et d'un savoir d'origine spirituelle, est que parmi les Colossiens s'étaient répandues des tendances hérétiques auxquelles saint Paul oppose cette sagesse et ce savoir d'origine spirituelle. Il y avait à Colosse des tendances judaïsantes. Beaucoup de fidèles issus du judaïsme en avaient gardé les pratiques et cherchaient à les imposer aux convertis de la gentilité. Ces pratiques qui avaient leur raison d'être avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'étaient plus d'aucune utilité, d'aucune valeur depuis. C'était de la superstition. En vertu de ces tendances, les Colossiens vénéraient, d'autres erreurs, les anges en leur qualité de gardiens de la loi mosaïque et s'obstinaient dans la pratique des observances de l'ancienne alliance. Mais d'autres influences, prégnostiques et prémontanistes, s'exerçaient sur leurs croyances et leurs conduites. Influences prégnostiques, des spéculations philosophiques et des prétendues visions les amenaient à rabaisser le Christ au-dessous ou au niveau des anges. Influence prémontaniste. Par orgueil et dans la persuasion que la matière était mauvaise, ils s'astreignaient à toutes sortes de pratiques qui se voulaient marquer du caractère de l'austérité. Des pénitences pratiquées par orgueil. Il n'était donc pas inutile que l'apôtre opposât à ces doctrines humaines le véritable savoir qui convient à des chrétiens. Il leur fait d'ailleurs remarquer un peu plus loin dans cet épître aux Colossiens, nous n'avons pas ce passage dans l'épître de la messe, mais si vous lisez cet épître aux Colossiens, vous trouverez ce passage. Voilà ce qu'il leur disait: veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie, c'est-à-dire d'une vaine tromperie qui procède d'une tradition toute humaine, selon les rudiments du monde, et non pas selon le Christ. En quoi consiste donc cette conduite digne du Seigneur que saint Paul propose aux Colossiens pour lutter contre ces tendances? Saint Paul la caractéristique par trois traits principaux. Tout d'abord, la connaissance et la pratique de la religion. Et cette connaissance et cette pratique doivent se prêter un appui mutuel. C'est le premier point. Deuxième point, saint Paul insiste sur la conduite à tenir dans l'épreuve, sous la croix. dans la tribulation. Enfin, troisième point, saint Paul insiste sur la nécessité de toujours se tenir dans l'action de grâce. Premier point, la connaissance et la pratique de la religion. Et c'est surtout sur ce point que nous insisterons ce matin. Saint Paul se sert à cet effet de l'image de l'arbre, dont les branches se développent, deviennent puissantes. Ces branches signifient l'accroissement de la connaissance religieuse. Et ces branches, normalement, après, vont porter du fruit, image des bonnes œuvres. Saint Paul nous met en garde contre deux défauts en insistant sur ces deux points, la connaissance de la religion et la pratique des bonnes œuvres. Notre religion, tout d'abord, n'est pas affaire uniquement de sentiments, auxquels manquerait la base profonde de la foi, d'un corps de doctrine. Un tel christianisme ne résisterait à aucune épreuve. C'est l'image de la semence tombée dans les épines. Il faut des connaissances religieuses. Il faut ces connaissances de foi. Deuxième défaut, notre religion n'est pas non plus un système philosophique, uniquement des connaissances, une théorie purement intellectuelle, plus ou moins nébuleuse, qui laisserait la vie morale et la pratique des bonnes œuvres et de la vertu entièrement de côté. Le christianisme est au contraire une sagesse avec un corps de doctrine, mais qui pénètre toute notre vie, non seulement intellectuel, mais aussi moral, et qui nous saisit tout entier. Rien en nous n'est laissé de côté, tant notre tête, notre intelligence, que notre volonté. Le chrétien n'a pas besoin d'être un savant théologien, capable de discuter sur toutes les questions dogmatiques. Il en faut cependant dans l'Église. Il faut que des personnes s'adonnent à ce travail dans l'Église. Il est cependant nécessaire pour tout chrétien de bien comprendre sa religion, de la pénétrer profondément dans sa foi avec son intelligence. C'est un devoir de se rendre possesseur de ce corps de doctrine, d'en comprendre le sens, chacun à son niveau. Et c'est un devoir grave qui nous est imposé. C'est la première condition pour connaître la volonté de Dieu. Tout d'abord, de croire en lui, de lui soumettre notre intelligence par la vertu de foi, se soumettre à ces vérités qui nous ont été révélées. Sans cette vertu de foi, et c'est le premier pas dans la vie surnaturelle, il n'y a pas de soumission à la volonté de Dieu. La foi est absolument nécessaire. Il faut en tout premier lieu que notre intelligence adhère au mystère de la révélation et à tous les dogmes qu'elle contient. Saint Paul nous demande à ce sujet d'accroître notre connaissance de Dieu. C'est les mots de Saint Paul. Et cette recommandation n'est pas sans valeur. D'où pour nous tous l'importance de la formation, formation continue, de la lecture d'ouvrages qui nous parlent de ce qui doit être l'objet premier de nos affections, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons le bon Dieu, nous devrions chercher à le connaître toujours davantage, prendre plaisir même à relire des choses que nous avons déjà lues sur lui. C'est le propre de l'amour. Il est plus que nécessaire de faire repasser dans notre esprit les grandes vérités de notre foi, d'en chercher des explications, des approfondissements. On lira ou relira avec profit, par exemple, le catéchisme du Concile de Trente, qui est un bon approfondissement du catéchisme de Saint Pie X. Grande importance aussi de s'intéresser, de prendre du temps pour mieux connaître la façon d'aimer ce Dieu tout-puissant et si aimant qui nous a créés et rachetés par la lecture d'ouvrages spirituels, la lecture aussi de la vie des saints, la pratique de ces ouvrages spirituels, la pratique de l'Évangile, c'est la vie des saints. Et nous en avons besoin. Si notre vie intellectuelle est tout entière centrée sur les choses du monde, naîtra nécessairement un amour du monde. Si nous cherchons à connaître le bon Dieu, nous aimerons le bon Dieu. Et cette vie intellectuelle doit nécessairement conduire, c'est le deuxième point, sur un mouvement du cœur. C'est le but de cet approfondissement de la foi, c'est d'aimer le bon Dieu davantage. Car ce que la foi découvre d'abord en Dieu, c'est le souverain bien, infiniment aimable en lui-même et infiniment aimant pour ses créatures. Dès lors, l'amour naît tout de suite de la foi et à son tour la stimule. Et comme la foi serait terne, défigurée, informe même, comme disent les théologiens, si elle n'était pas animée de cet élan du cœur. De spéculative, la foi tend à devenir pratique et à mettre en branle tout l'organisme des vertus morales, prudence, justice, force, tempérance et toutes les petites vertus morales qui dépendent de ces quatre-là. La foi va ainsi s'épanouir normalement en ascèse et dans la pratique des bonnes œuvres. En ascèse tout d'abord, pour que Dieu règne en nous, signe tangible de la crainte de Dieu, crainte révérentielle, qui n'est pas la peur du souverain juge, mais l'attention délicate à ne pas faire de la peine à un Dieu qui nous aime tant. Cette crainte nous donnera une grande assurance face aux dangers de toutes sortes. Et cette pratique de l'ascèse est très importante. Quand on croit en Dieu, quand on comprend ce que c'est que la foi, que ce que nous devons faire, nous nous rendons compte nécessairement qu'il y a en nous un ennemi à la pratique de la volonté de Dieu. Les conséquences du péché originel, les conséquences des péchés que nous avons commis. Et normalement, la pratique immédiate, c'est la pénitence et la mortification. Après la débâcle de 40, beaucoup de soldats français ont été emmenés en prison dans des camps de prisonniers en Allemagne. Et il y avait l'un d'eux, pas beaucoup de religion, rien du tout. Mais dans ce camp, au contact d'un aumônier prisonnier comme lui, il a reçu l'instruction, il s'est converti. Le bon Dieu a touché son cœur. Et ce camp n'était pas un hôtel 5 étoiles, vous pouvez vous en douter. Beaucoup de privations, de renoncements. De lui-même, il a compris tout de suite qu'il fallait retrancher des choses, qu'il fallait se mortifier, faire pénitence, même s'il n'y avait déjà pas grand-chose. C'est la suite naturelle d'une vraie vie chrétienne, l'ascèse. Deuxième chose, la pratique des bonnes œuvres. Pour pratiquer cet amour de Dieu à l'égard du prochain. À ce docteur de la loi qui demandait à notre Seigneur pour le tenter, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et notre Seigneur ajoute, « C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. » Voyez-vous, le bon Dieu ne sépare pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est la même vertu. Et s'il n'y a pas d'amour du prochain, il n'y a pas d'amour de Dieu. C'est l'enseignement de Sainte Catherine de Sienne, elle est formelle sur la question. D'où ce que nous recommande Saint Paul dans cet épître, pour faire la volonté de Dieu. Une conduite digne du Seigneur qui lui plaise entièrement consiste à porter du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres. Et vous connaissez sans doute cet entretien célèbre entre saint François de Sales et Théodore de Bèze, le chef protestant qui avait pris la suite de Calvin dans la ville de Genève. Cet hérétique disait à saint François de Sales, « Je ne veux point nier que vous ne fassiez votre salut en votre religion. » Il concédait que les catholiques pouvaient se sauver. Mais il y a ce malheur, que vous embrouillez les âmes de trop de cérémonies et de difficultés, car vous dites que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. qui toutefois ne sont que de bienséance. Mais c'est là la thèse protestante. La foi suffit, pas besoin de bonnes œuvres. L'hérétique continue. D'où arrivent plusieurs maux, plusieurs difficultés. Les peuples croyant à cette nécessité des bonnes œuvres par vos prédications et ne le faisant pas, elles se damnent misérablement parce qu'ils contreviennent à leur convenance, à leur conscience, pardon. C'est pourquoi, afin de remédier à ces maux, nous avons tâché d'établir notre religion, le protestantisme, en laquelle le chemin du ciel est rendu facile aux fidèles, ayant jeté ce fondement que la foi sauve sans les œuvres, que les bonnes œuvres ne sont point de la nécessité du salut, mais seulement, comme je vous l'ai déjà dit, de bienséance. Saint François lui répondit ceci. Pouvez-vous ignorer la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, en l'évangile de Saint Matthieu, enseignant à ses apôtres ce qu'il voulait qu'ils crussent du dernier jugement, ne fait point de mention des péchés commis, mais dit-on seulement qu'il condamnera les mauvais parce qu'ils n'auront pas fait les bonnes œuvres. Le chapitre 25 de Saint Matthieu consiste entièrement sur la pratique des bonnes œuvres. C'est là-dessus que porte le jugement dans cet évangile. Voici les paroles de notre Seigneur, c'est Saint François qui continue de parler. « Allez maudit au feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et ainsi de suite. « J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas vêtu, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. » Saint François continue. « Voyez-vous que pour avoir manqué aux bonnes œuvres s'ensuit la damnation éternelle ? Si elle n'était pas de si elle n'était que de bienséance, comme vous dites, pensez-vous que ceux qui ne les auraient pas faites fussent punis d'une peine si rigoureuse ? » Théodore de Bèze ne put rien répondre. C'était l'aveu de son échec, de sa défaite. Nous avons dans l'apôtre Saint Jacques ces paroles aussi. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien sûr, les protestants rejettent ce texte, il est très clair. D'où l'importance pour nous de nous examiner quelque peu sur ces œuvres que nous devons pratiquer. Sommes-nous généreux ou bien repliés sur nos petites affaires, notre petite personne? Et même dans nos prières, pensons-nous à prier pour les pécheurs, dans nos pénitences aussi? Et si nous avons le souci d'aider le prochain, s'il y a des œuvres, si nous en pratiquons, si nous sommes généreux pour aider notre prochain, sont-elles faites avec pureté d'intention, pour l'amour de Dieu? Si la foi sans les œuvres est une foi morte, les œuvres sans la foi sont aussi des œuvres mortes. C'est le naturalisme le plus grossier, piège trompeur dans lequel se niche l'amour-propre et la paresse spirituelle. Autre point, nous avons vu que Saint Paul insiste sur la pratique, sur la foi et sur les œuvres, et les deux ensemble. Deuxième point, et nous approchons de la conclusion, après la connaissance de Dieu, avec les œuvres, Saint Paul nous demande de porter la croix avec joie. Énergie et joie. Et vous comprenez que pour cela, le premier point est très important, c'est la foi qui nous permet de porter la croix avec de la joie. Bien sûr, pas la joie sensible, une difficulté est toujours crucifiante, c'est toujours compliqué, toutes les difficultés de toutes sortes, les peines physiques, les peines morales, les échecs. Mais c'est la foi qui nous fait penser à la croix, qui nous refait revenir à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à la façon dont il nous a sauvés en portant cette croix pour nous. Et nous comprenons par la foi qu'il ne peut pas en être autrement pour nous. Nous aussi, nous devons porter cette croix avec notre Seigneur. Et c'est cette pensée-là qui nous met dans la joie. C'est ça la joie, de porter la croix, d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui, sous la même croix. Autre point, troisième point sur lequel insiste Saint Paul, l'action de grâce constante. Et encore une fois, à cause de cette foi, nous avons été rachetés par notre Seigneur Il est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. Et c'est ça le grand objet de notre action de grâce. Demandons donc, pendant cette messe, tes grâces pour, pendant cette semaine, réfléchir aux résolutions que nous allons prendre pour dimanche prochain pour bien commencer notre avant. Et saint Paul nous donne deux axes principaux. Augmenter notre connaissance de Dieu, des bonnes lectures, des résolutions de lecture, et la pratique des bonnes œuvres et la joie dans la croix. Demandons ces grâces à saint Paul, à notre Mère l'Église aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.